Madame, Monsieur, bienvenue à l'écoute de votre émission « Une heure pour convaincre ». Une heure pour convaincre, votre émission qui donne la parole aux acteurs de développement de la région de l'Extrême Nord. Nous nous intéressons aujourd'hui à la plateforme FDS-OSC, Force de défense et de sécurité et organisation de la société civile, un cadre régional de dialogue et de coopération civilo-militaire. La plateforme FDS-OSC s'inscrit dans le cadre du processus de stabilisation du bassin du lac Tchad. Elle a ambition d'être une structure de référence dans la région de l'Extrême Nord et dans la sous-région du bassin du lac Tchad. Nous en parlons dans cette émission avec le coordonnateur de la dite plateforme, Monseigneur Gilbert Dambawana, par ailleurs vicaire général du diocèse de Maroua-Mokolo. C'est l'invité de cette édition. Au terme des 3 années d'organisation et de structuration, les différents acteurs se sont réunis en assemblée générale. Question de valider la charte de collaboration, d'adopter le plan d'action et les stratégies de déploiement de la plateforme pour le compte de l'année 2022. Je vous propose d'entrer dans cette émission en écoutant quelques acteurs qui ont pris part à cette assemblée générale.
Moi, je suis Pascal, le animateur de la plateforme FDS-OSC. Voilà. Depuis quelques jours, nous sommes projetés à l'organisation de l'assemblée de la plateforme. Et les objectifs ont été atteints du moment où la charte a été validée par les participants et les parties prenant dans la plateforme. Les stratégies de déploiement et de travail au cours de l'année ont été validées et adoptées par l'assemblée. Et quelques recommandations ont été faites par les participants. Et je présume que ces objectifs ont été atteints. Afin de, d'ici la fin du mois, tout au moins jusqu'à d'ici mi-avril, nous allons mettre sur pied les plateformes départementales, forces de défense et sécurité, organisations de la société civile au niveau du département du Mayo-Sava, le département du Logone-Chari et le département du Mayo-Tchanaga.
Je m'appelle Arbawa Diane, je représente l'association Ami Cameroun, association pour une meilleure insertion socio-professionnelle des filles et des femmes au Cameroun, membre de la plateforme FDS-OSC. En ma qualité de représentante des filles et des femmes de la région de l'Extrême Nord, j'espère que cette plateforme pourra mettre à l'évidence une place de discussion et aussi mettre en avant les discussions civilo-militaires qui permettront à la société civile de mieux être compris par les populations et aussi aux militaires et aux forces de maintien de l'ordre de pouvoir communiquer de manière active avec les populations et de collaborer avec la société civile pour prévenir l'extrémisme violence et arriver à une paix, une stabilité dans la région de l'Extrême Nord. Tout à fait, je garde un espoir favorable à ce dialogue dialogue civilo-militaire et j'espère de tout cœur que ce dialogue civilo-militaire portera des grands fruits dans la région de l'extrême nord et aussi que ce dialogue, malgré les frustrations qui ont eu lieu, malgré les différents points qui n'ont pas été réglés antérieurement, ce dialogue est tout à fait un pan pour arriver à une cohésion, à un vivre ensemble et surtout à un bien vivre ensemble dans la communauté, dans les différentes communautés et les différentes parties prenantes dans la région de l'extrême nord.
Je suis Duplex Kwenzob, secrétaire exécutif de Dynamique Mondiale des Jeunes, qui est une organisation qui a pour la jeunesse pour cible et pour objectif. Nous sommes membres de la plateforme Force de défense et sécurité et organisation de la société civile. Et dans le bureau, nous occupons la charge ou la prise en compte de la composante jeune. L'avènement de la plateforme qui promeut le dialogue entre les civils, je pourrais dire, et les forces de défense et de sécurité est une aubaine, c'est un pont pour bâtir dans notre société et non seulement la confiance entre ce corps qui assure la sécurité nationale et les populations qui ont besoin d'une autre forme de sécurité qu'on peut qualifier de sécurité humaine, entendu cette sécurité qui recouvre en même temps les aspects de développement que les aspects de droits de l'homme et bien évidemment la jouissance d'un certain nombre de prérogatives dont ils ont besoin pour leur développement intégral. Alors, les crises qui ont sévi dans la région de l'extrême nord ont soulevé un certain nombre de préoccupations pour lesquels on s'est rendu compte qu'une seule composante, fût-elle celle qui assure la sécurité nationale, ne pourrait à elle seule résoudre la crise existante. Parce que les populations dans lesquelles parfois glissent certaines mauvaises pratiques, certains facteurs favorables à la délinquance, donnent à ce que les incursions des forces externes peuvent nourrir certaines velléités locales. Donc il faut établir cette confiance pour qu'en tout temps, on ait la possibilité d'un échange permanent, ce qu'on va appeler dialogue. Et que les forces exogènes n'arrivent pas et réveillent certains conflits latents entre les populations. Et nous devons comprendre que certains de ces conflits latents reposent sur l'accès aux ressources. Et lorsque les facteurs exogènes, par exemple à l'extrême nord, l'incursion de Boko Haram, met en avant aussi ces facteurs économiques, c'est-à-dire l'accès aux ressources, on va très rapidement comprendre que les ressources deviennent conflictogènes. Et un conflit qui est interne à côté d'une menace externe, ça créerait beaucoup plus de destruction. Donc le dialogue civilo-militaire va donc nous appeler à travailler en collaboration et en coopération avec les forces de défense et de sécurité, non seulement pour la protection du territoire, mais aussi pour la prise en main du développement en termes de mise en place des infrastructures, de mise en place des conditions d'épanouissement permanent, de mise en place des conditions même de détente. Parce qu'on a vu que dans l'insécurité, les populations ne pourraient par exemple se livrer aux activités économiques, aux activités ludiques telles que le sport. Donc du coup, ce dialogue peut permettre de reconstruire ces éléments de socialisation.
Je suis Zébédé Bichet, président national d'ACUPED, Action pour la contribution de l'unité nationale, la paix, le développement et le droit de l'homme. Je suis ici, en tant que membre de la plateforme FDS-OEC, il faut davantage investir sur cette plateforme en tenant compte de son automatisation et renforcer aussi les capacités au niveau local, c'est-à-dire en ouvrant l'ouverture sur le plan local, c'est-à-dire au niveau des départements, au niveau des arrondissements et en tenant compte des points focaux qui vont participer à faire contribuer la plateforme à toucher du doigt la réalité qu'il y a entre le dialogue civilo-militaire. Je crois parce que déjà, avec ce que nous avions eu avec l'Assemblée générale d'hier et les conférences d'aujourd'hui qui ont été très d'ailleurs brillantes. On se rend compte, moi particulièrement, que ce dialogue est effectif et ça a déjà même pris corps parce que on assiste déjà au niveau supérieur à cette communication et dès que la communication que nous avions tenue sera réalisée au niveau inférieur, je pense que le dialogue sera effectif et ça va porter beaucoup de fruits même.
Il faut retenir que le Cameroun est en processus. Processus de paix dans une population, une région qui a connu quelques difficultés et qui sont normales dans toute croissance. Et aujourd'hui, les autorités locales, l'Église, les différentes instances, instances militaires, instances civiles, ont décidé d'être ensemble, d'avoir une vision en suivant même les recommandations du chef de l'État, tout juste pour le dialogue national qui s'est passé. Il y a comme une extrême nordisation des perspectives qui sont données par l'État camerounais. Et ici, c'est au quotidien. On veut vivre le dialogue civilo-militaire et vivre ce que moi j'ai appelé le projet Marois, qui est un projet de convivialité, un projet de fraternité, de paix, de stabilité, de sécurité. Et moi, je suis intervenu pour apporter un peu, pour intelligibiliser ces éléments, en proposant, au-delà d'un dialogue simplement entre civil et militaire, ce qu'on peut parler le dialogue intercommunautaire, qui ajoute donc cette capacité que les hommes et les femmes, les membres de communautés diverses, qui sont très diverses ici, ils peuvent vivre ensemble, faire route ensemble, travailler ensemble, produire ensemble et être autonomes ensemble. C'est un peu sur ce champ que nous avons navigué en convoquant d'autres auteurs européens, bien sûr, qui ont plus ou moins évoqué ces éléments, qui ont aussi connu des guerres, des difficultés, des conflits et qui nous donnent comme des éléments d'inspiration pour mieux construire notre pays, pour mieux construire l'extrême nord, pour mieux construire la stabilité ici.
Mesdames, Messieurs, vous écoutez votre émission « Une heure pour convaincre » sur Radio Série. Nous parlons aujourd'hui de la plateforme FDS-OSC qui, consciente de l'impérieuse nécessité de se regrouper pour défendre la patrie et prévenir l'extrémisme violent, a tenu son assemblée générale et a adopté des résolutions. Pour en parler, nous recevons dans ce studio le coordinateur de cette plateforme, par ailleurs vicaire général du diocèse de Maroua-Mokolo, Monseigneur Gilbert Dambawana. Nous l'accueillons dans un instant. Monseigneur Gilbert Dambawana, vous êtes le coordinateur de la plateforme régionale Force de défense et de sécurité et des organisations de la société civile région de l'extrême nord. Merci de répondre aux questions de l'émission Une heure pour convaincre.
C'est avec plaisir que j'ai accepté d'être des vôtres.
Monsieur le coordonnateur, dites-nous d'entrée de jeu, qu'entendez-vous par plateforme de dialogue et de collaboration FDS-OSC et quels sont les différents acteurs membres de cette plateforme?
Merci. Alors, cette plateforme dénommée FDS-OSC regroupe en son sein les forces de défense et de sécurité et les organisations de la société civile. C'est une initiative locale de dialogue et d'échange inclusif, également un cadre de plaidoyer qui s'inscrit dans le cadre de la prévention de l'extrémisme violent, de la recherche de la paix dans la région de l'extrême nord.
Ok, et que comptez-vous faire exactement dans cette plateforme? Je parle de vos objectifs précis.
Alors, la plateforme s'est dotée d'objectifs et de missions qui sont entre autres prévenir et lutter contre l'extrémisme violent à travers des cadres de discussion, à travers également la mise en place des actions concrètes et durables. Nous avons des rencontres de formation sur l'extrémisme violent, sur les mécanismes de prévention de l'extrémisme violent, et également sur la question, la problématique du dialogue civilo-militaire dans le contexte qui est spécifique de la région de l'extrême nord.
Ok, monsieur le coordonnateur, on se rend compte que vous agissez sur plusieurs axes, dans plusieurs domaines. Qu'est-ce qui a justifié la mise en place d'une plateforme de dialogue et de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les organisations de la société civile?
Je dirais que cette initiative est née de la volonté commune, partagée des forces de défense et de sécurité et des organisations de la société civile. En effet, au mois de janvier 2019, il y a eu deux ateliers qui ont été organisés. Et ces deux ateliers regroupaient pour le premier atelier, donc les acteurs de FDS, donc des forces de défense et de sécurité. Et le thème était porté sur la prévention de l'extrémisme violent, la sécurité humaine collective. Une semaine après, donc, il y a eu un atelier qui a regroupé les OSC, les organisations de la société civile. Au terme de ces deux ateliers, de façon étonnante mais réconfortante, on est arrivé à l'expression donc, d'un désir, d'un souhait que les efforts soient mutualisés, soient conjugués, puisque tous nous poursuivons les mêmes objectifs. C'est ainsi donc que un troisième atelier a été organisé au cours duquel les participants représentant des forces de défense et de sécurité et les membres des organisations de la société civile ont jeté, je pourrais dire, les semences de cette plateforme qui a effectivement germé en date du 29 octobre 2020. Puisque c'est à cette date que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la région de l'extrême nord, a procédé à l'installation du tout premier bureau de cette plateforme.
Ok, et on constate que c'est comme ça la genèse de la plateforme régionale. Et quel est le bilan de la plateforme depuis sa création?
Depuis sa création, je pourrais d'entrée de jeu dire que le bilan est satisfaisant. Satisfaisant dans la mesure où, en regardant les différentes activités qui ont été organisées, nous pouvons citer entre autres la tenue d'un atelier régional sur la situation sécuritaire dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Nous avons également tenu des rencontres mensuelles de la plateforme. Nous avons également eu à mener des études sur la problématique de la sécurité dans la région de l'extrême nord. En date du 28 mars 2021, nous avons eu une formation du personnel de l'Observatoire de l'extrémisme violent et des violations sur des thèmes tels que la violation des droits humains. Nous avons organisé aussi des activités dans certains départements de la région de l'extrême nord, dans le but de dupliquer l'expérience que nous avons commencée au niveau régional.
Et en quoi consistaient ces activités-là?
Alors, ces activités ont concrètement consisté en des formations, la formation des communautés sur la thématique de la sécurité humaine collective qui invite chacun des membres de la communauté à se sentir concerné par la question sécuritaire. Il y a eu également comme thème durant ces formations les droits humains, parce qu'on s'est dit que si les gens connaissent leurs droits, ils sauront mieux les défendre.
Ok, vous pensez que toutes ces activités-là ont eu un impact sur le train-train quotidien des populations?
Impact, je dirais oui. Peut-être que ce n'est pas encore très significatif parce que nous gardons un lien avec les communautés. Et selon les témoignages que nous recevons et qui nous proviennent donc de la base, c'est qu'il y a un plus grand climat de confiance qui s'établit et progressivement entre les organisations de la société civile et la population, d'une part, parce que parfois c'est la méfiance, mais là, en instituant des cadres de rencontres et de concertations, il y a une sorte de facilitation de dialogue entre la population et les organisations de la société civile, les populations qui comprennent que ces organisations sont à leur service et qu'il est important qu'elles, comme population, puissent dialoguer avec et collaborer avec ces organisations. D'autre part aussi, dans la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, il y a le partage de l'information, parce que comme autre thématique sur laquelle les populations ont été formées, il y a le système d'alerte précoce qui a permis aux populations de savoir l'importance de partager l'information, de renseigner ceux qui ont la mission de les protéger. Et aussi une population qui a de plus en plus compris que les forces de défense et de sécurité sont à leur service. Ce ne sont pas des bourreaux à craindre, mais plutôt des personnes avec qui il faut collaborer pour atteindre les mêmes objectifs qui sont ceux de la sécurité et de la gestion des cas d'extrémisme violent.
Monsieur le coordonnateur, nous venons d'assister à une assemblée générale de la plateforme. Quels étaient les points inscrits à l'ordre du jour et quel est le niveau d'atteinte des résultats attendus?
Alors, parmi les points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la plateforme tenue en date du 16 mars dernier, il y avait la présentation et la validation de la charte, un document qui réglemente la plateforme, qui définit ses missions, ses objectifs et sa méthodologie de travail. Et à la fin de l'Assemblée générale, nous avons procédé à l'adoption de cette plateforme qui, pour nous, est un outil de base qui organise et qui permet d'envisager des actions qui vont dans le cadre du déploiement de la plateforme. Il y a eu également la présentation du plan d'action annuel de la plateforme. Et après des amendements, nous avons adopté cette plateforme, ce plan d'action, autant pour moi, qui prévoit une diversité d'activités que nous aurons certainement l'occasion de dérouler au cours de cet entretien.
Ok, et est-ce qu'on peut avoir l'une des grandes résolutions de cette Assemblée générale?
Voilà, l'une des grandes résolutions, c'est de travailler au positionnement de la plateforme, parce que notre ambition n'est pas simplement de limiter nos actions dans la région de l'extrême nord, mais de l'étendre à l'ensemble du territoire national et aussi d'apporter notre contribution dans les réflexions qui sont menées au niveau du bassin du lac Tchad.
Monsieur le coordonnateur, cette assemblée générale a été suivie par l'organisation d'une conférence. Sur quoi portait-elle et quels étaient les objectifs poursuivis?
Voilà, justement, la conférence a été déjà comme une propédétique, une sorte d'entrée de jeu en lien avec la grande résolution de l'Assemblée générale que j'ai évoquée. La conférence a porté sur la problématique de la paix, de l'insécurité, de la stabilisation dans la région de l'extrême nord, mais aussi beaucoup plus de façon étendue dans le bassin du lac Tchad.
Au cours de l'Assemblée générale, justement, un chronogramme d'activités pour l'année 2022 a été validé. Quelles sont les principales activités dans ce chronogramme?
Alors, les activités sont de plusieurs ordres. Il y a tout d'abord le déploiement dans les départements de la région de l'extrême nord. Nous en avons ciblé 3, notamment le département de Mayo-Tchanaga, le département de Logone-Chari et le département de Mayo-Sava. Ouais. Donc, l'une des activités principales, c'est de mettre en place des antennes départementales de la plateforme avec la désignation des points focaux qui serviront de relais entre le bureau régional et les communautés de ces différents départements. Comme autre élément aussi, il y a les formations sur les droits humains que nous entendons réaliser, que nous entendons faire dans les villages, dans les communautés, parce que la plateforme voudrait avoir vraiment un ancrage à la base. Il y a également des études qui sont en vue, notamment sur l'élaboration de la cartographie religieuse de la région de l'extrême nord, avec une insistance sur quelques départements. Il y a également une étude qui est en vue sur l'implication des leaders religieux et des leaders communautaires par rapport à la question, à la grande problématique de la lutte contre l'extrémisme violent, la consolidation du vivre ensemble et la cohésion sociale. Voilà, de manière générale, je dirais quelques grandes activités. Et peut-être aussi, il y a une activité importante qu'il convient de rappeler, c'est des journées portes ouvertes que nous entendons organiser à l'approche de la célébration de la fête nationale de notre pays, donc autour du 20 mai. Et ces journées portes ouvertes auront pour but d'aider la population à mieux connaître les forces de défense et de sécurité, à mieux connaître leur mission, ce qui favorisera, à n'en point douter, l'amélioration des relations entre ces deux catégories.
Vous avez parlé tout à l'heure de la carte religieuse de quelques départements précis. Quels sont ces départements et pourquoi avoir choisi exactement ces départements?
Alors, nous avons choisi les départements du Logone-Chari, du Mayo-Sava et du Mayo-Chanaga. Pour la simple raison que l'analyse de la situation sécuritaire dans la région de l'extrême nord révèle que ce sont les départements les plus touchés, les plus affectés par la crise Boko Haram. Et on s'est donc dit qu'il serait mieux de commencer une étude, si les possibilités nous le permettent, pourquoi pas de l'étendre aux autres départements de la région. Mais le choix de ces trois départements se justifie par le simple fait que ce sont les départements qui sont les plus affectés par la crise Boko Haram.
Monsieur le coordonnateur, dans le processus de paix et de stabilisation de notre région, quel est l'apport ou la plus-value d'un tel cadre de concertation?
Alors, comme je l'ai relevé, cette plateforme émane de la volonté des organisations de la société civile et des forces de défense et de sécurité. Ces deux catégories qui sont sur le terrain. Et certainement, elles ont perçu une certaine limite dans leurs actions. Parce qu'il s'est dit, les forces de défense et de sécurité se plaignent parfois de ne pas être informées sur les activités, sur les actions des OSC. Et les OSC, d'autre part, relèvent parfois des exactions qui sont observées au sein des populations et qui pointent du doigt les FDS, les forces de défense et de sécurité. Et on s'est dit, en créant un espace comme celui-ci, déjà, on atteindra un objectif, celui de rapprocher les différents acteurs. On gagnera également à mutualiser les actions et les efforts, parce que nous sommes tous convaincus, et comme nous pouvons bien le comprendre à travers la perspective de la sécurité humaine collective, c'est que c'est chaque membre de la société, de la communauté, disons-le ainsi, qui est invité à se sentir concerné par les efforts qui sont déployés en vue d'un retour à la paix dans la région de l'extrême nord. Et convaincus donc de cela, nous pensons que la plateforme apporte déjà un plus et elle continuera à apporter davantage, surtout si nous continuons à gagner la confiance de la population, à améliorer la qualité de relations entre ces populations et les forces de défense et de sécurité.
Sur le plan stratégique, comment est garantie la pleine participation des différentes FDS à la réussite des objectifs de la plateforme quand on sait que la collaboration avec les civils n'est pas toujours aisée?
Alors, merci. Cette question me permet de préciser que les membres FDS qui font partie de la plateforme sont désignés par leur hiérarchie. Ce n'est pas à titre personnel qu'ils font partie de la plateforme, mais ils sont désignés par leur hiérarchie. Et j'ai relevé tantôt que la plateforme bénéficie de la reconnaissance, je dirais, de la plus haute autorité de la région de l'extrême nord, qui est le gouverneur de cette région, puisque c'est lui qui a installé la plateforme. Il s'est fait même d'ailleurs représenter lors de l'Assemblée générale de la plateforme, ce qui veut dire que nous n'évoluons pas dans la clandestinité, ce qui garantit quand même une certaine confiance et ce qui permet également aux forces de défense et de sécurité, du moins à leurs membres qui sont désignés pour faire partie de la plateforme, de se sentir à l'aise et d'accepter cette ouverture en gardant bien sûr une marge de discrétion, parce que chaque corps de métier, chaque organisation a des espaces qui lui sont réservés, comme on pourrait dire des espaces privés. Ouais. Et cela se fait dans le strict respect de ces consignes que le personnel de forces de défense et de sécurité est supposé respecter.
Ok, monsieur le coordonnateur, pour sortir, est-ce que vous pouvez juger le degré d'implication des autorités administratives pour la bonne marche des activités de la plateforme? De quelle onction bénéficie-t-elle de la part de ces autorités?
Voilà, c'est l'occasion pour moi de me réjouir du grand soutien des autorités de la région de l'extrême nord. Je citerai en premier lieu son Excellence, monsieur le gouverneur, qui avait participé déjà aux premiers ateliers qui ont donné naissance à la plateforme, qui a procédé à l'installation du premier bureau de la plateforme le 29 octobre 2020. Et au cours de la cérémonie d'installation du bureau de cette plateforme, le gouverneur avait assigné donc une mission à la plateforme qui était en quelque sorte la condition de son parrainage, de son soutien. Et je me rappelle encore de ses propos. Il ne faudrait pas qu'on vous installe pour dormir après. Je voudrais ressentir votre déploiement sur le terrain.
C'était la condition?
Disons une condition dite avec beaucoup d'humour. Mais la plateforme a respecté ce défi. Je préfère l'appeler ainsi. C'était un défi qu'il nous a lancé et nous avons relevé le défi. Et je pense, comme j'ai eu l'occasion de le relever lors de l'Assemblée générale de la plateforme, le fait qu'il ait envoyé son représentant, c'est le signe qu'il est convaincu que la plateforme est vraiment active sur le terrain. Donc, et si nous avons la collaboration de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous avons aussi nous bénéficions de la collaboration des autorités militaires, des autorités de la gendarmerie, des autorités du ministère des Faunes et des Forêts, et également des services de la douane. Donc, nous tous se sont fait représenter lors de l'Assemblée générale, et c'est ainsi qu'il y a une collaboration et qu'il y a un soutien qui est effectif.
Monseigneur Gilbert Dambawana, vous êtes le coordonnateur de la plateforme régionale Force de défense et de sécurité, organisation de la société civile région de l'extrême nord. Merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui remercie Radio Serré, et je pense qu'avec le temps, nous serons les fidèles personnes à venir intervenir à Radio Serré.
Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission « Une heure pour convaincre ». Pour cette édition, nous avons présenté la plateforme FDS-OSC, forces de défense et de sécurité et organisations de la société civile qui s'inscrit dans l'optique de poursuivre les efforts de coopération inclusive autour de la stabilisation de la paix et du développement durable dans le bassin du lac Tchad, particulièrement dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une autre édition. Steve Febi était à la réalisation et à la supervision, David Bayan. Je suis Nicole Massaï à la présentation. Restez scotchés au programme de Radio Océrie.